fatigue ou le manque d'habitude ou de ne pas regarder là où il faut, ben, on est un peu dérangé par les images et et les yeux qui ne vont pas là où on voudrait. Bon, ce n'est pas grave. Je voudrais ajouter à la présentation qu'a faite Vincent deux petits points. D'abord que je ne suis plus père abbé depuis le mois de juin pour des raisons de santé, un cancer un peu agressif qui m'a obligé à laisser ma charge. Et donc je vous parle depuis Landévennec et non pas depuis Ancalcate. L'abbaye de Landévennec est une sœur d'Ancalcate, deux communautés de la même congrégation. Alors l'écoute de l'évangile tout à l'heure ben, tombait à pic puisque je suis à 50 mètres de la mer avec des barques, des pêcheurs et tout ce qui fait le plaisir et la joie d'être les pieds dans l'eau. Donc c'est ici que je passe quelques mois. Je serai de nouveau dans mon monastère d'Ancalcate dans 3 mois. La guérison étant bien, enfin, le traitement se poursuit très très bien. Il n'y a pas de souci de santé majeur pour le moment. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème de la responsabilité pour ce matin? C'est l'audace qui m'a interrogé, c'est le mot que vous m'aviez donné, invité à l'audace. Et la responsabilité, j'en ai trouvé le ferment dans un texte de Martin Buber, donc il y a 50 ou 60 ans, mais ça me paraît très actuel quand même. Il fait prendre conscience à nos contemporains du caractère de plus en plus effiloché de notre rapport à l'origine et de notre rapport à la fin. C'est-à-dire que notre connaissance du cosmos fait que ça a beaucoup reculé quant au point de départ et encore plus reculé, enfin en tout cas une ignorance qui s'est accrue démesurément quant à l'origine et à la fin, qui fait que l'homme contemporain est vraiment dans un milieu d'insignifiance. On n'est presque rien dans ce monde, ou du moins notre vie tellement limitée, tellement mesquine au regard de ces dimensions immenses, fait que on peut être tenté par une espèce de vie déconnectée, irresponsable, électron libre et n'importe quoi. Je vous lis une phrase justement de ce passage de Buber. L'homme d'aujourd'hui n'est plus responsable. Il s'imagine oser beaucoup, mais la seule authentique audace, celle de la responsabilité, il fait tout ce qu'il peut pour la contourner. Alors c'est très fort et très difficile à entendre, hein? Une sorte d'accusation d'un homme contemporain qui n'oserait plus être responsable. Il m'a semblé que cet appel à la responsabilité, outre cette résonance avec le monde contemporain et cette démesure scientifique dont nous sommes maintenant tout à fait familiers, ça résonnait très fort avec l'Évangile, tout simplement, avec la personne du Christ et son message, sa parole. Et donc, j'ai voulu creuser un peu cette affaire avec vous ce matin de la responsabilité, espérant trouver des oreilles attentives et aussi des réponses et une capacité de répondre. La responsabilité, c'est une notion qui est complexe, qui est très riche et qui, un peu paradoxalement, ne se trouve pas telle quelle dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans l'Évangile. Le mot responsable, responsabilité, bah, ça ne fait pas partie du vocabulaire biblique. Alors on peut se demander un peu pourquoi d'abord, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ce mot-là et qu'est-ce qui y correspond dans la Bible? Alors je pense que notre Bible, elle vient d'un univers sémitique, hébraïque et grec, et que la notion de responsabilité, c'est vraiment un héritage beaucoup plus récent qui nous vient du monde romain, tout le monde du droit. Qui a beaucoup marqué l'Occident, mais c'est un monde romain des premiers siècles, hein, et ça n'est pas le monde biblique, ce monde du responsable, justement. Alors, notre vision de ce qu'est la responsabilité est peut-être un peu étroite, parce que voilà, pour nous, responsable, ça veut peut-être dire coupable, non coupable. Et c'est beaucoup plus large que ça. Je crois que bibliquement, on a un ancrage qui est très intéressant de cette notion-là, mais qui élargit le cœur, qui oblige à regarder plus largement la vie que sous l'angle juridique, très proprement latine, romaine, qui réduit le spectre à peu de choses, à cette affaire de jugement, de droit, de pas droit. Voilà. Alors, je trouve le mot biblique qui va correspondre à la responsabilité, c'est un exégète anglais qui en a fait la description, il s'appelle Robinson, bien connu dans les années 70, un anglican, un évêque anglican. Il dit que cette responsabilité, dans le vocabulaire biblique, c'est ce qu'on appelle le fils, être fils. Et ça m'a beaucoup éclairé, depuis que j'ai rencontré ce texte et cette analyse, de m'apercevoir que dans la Bible, le fils, ce n'est pas l'enfant. Alors, bien sûr, il y a des moments où ça se confond. On peut penser que tous les textes ne sont pas absolument réglés comme du papier à musique. Mais la notion capitale, c'est qu'on appelle fils l'enfant quand il passe justement de la minorité à la majorité, quand il devient, moi je dirais aujourd'hui, responsable. Et le signe de cette responsabilité, c'est qu'en passant de la minorité à la majorité, il reçoit l'héritage. Il est mis en demeure d'une liberté. C'est ça qui se joue dans le fils. Alors ça m'a beaucoup parlé, cette notion-là, parce que d'abord je me suis dit, ah ben oui, du coup ça devient un tout petit peu plus intéressant pour le Christ de se présenter comme le fils du Père. C'est pas simplement l'enfant, le mineur. Pour nous, fils, fils-père, c'est toujours un peu mineur-majeur. Et mineur-majeur, c'est pas très intéressant, quoi. Il y a le grand et le petit. Ben non, fils, c'est les mains ouvertes parce que l'héritage va être donné et capacité de recevoir cet héritage. Alors, si je me mets dans la théologie biblique, mais enfin dans la théologie tout court, à regarder fils et père, qu'est-ce que c'est que l'héritage? C'est l'Esprit-Saint. C'est la plénitude de l'Esprit-Saint qui est donnée par le Père au Fils, rendue par le Fils au Père. C'est cet échange-là. Alors, ça ouvre des perspectives intéressantes. Mais ça questionne beaucoup notre façon à nous de concevoir la responsabilité, à savoir voilà, être fils, et donc entrer dans un mouvement de réponse. Là, on est du côté de la parole, est responsable celui qui peut donner une réponse, qui est capable de donner une réponse. Et dans notre vie la plus courante, cette affaire de réponse, elle est sollicitée tous les jours. C'est tous les jours qu'il faut donner des réponses. Alors, je vais prendre des schémas un peu variés et puis peut-être vous en proposerez d'autres, je ne sais pas. Bien sûr, ça se joue déjà dans la famille, dans les relations. En fait, c'est tout le monde des relations qui est concerné là. Mais particulièrement, ça se joue dans l'entreprise, dans l'administration, avec des schémas hiérarchiques. C'est-à-dire, il y a le responsable et puis les subordonnés. Alors, on voit tout de suite que là, on propose une sorte de schéma hiérarchique où il y en a un qui est responsable, sous-entendu, les autres ne le sont pas. Ça, c'est très dangereux. Si on part là-dessus, c'est terrible, la responsabilité, parce que c'est assimilé à un pouvoir. Si les autres sont irresponsables, ça ne marche pas. C'est une entreprise qui va au casse-pipe, ou une administration ou une association qui va au casse-pipe. L'intérêt, c'est que ça réponde dans les deux sens, c'est-à-dire de celui qui est en charge, à celui qui lui demande quelque chose, ou bien celui qui est en charge demande à son subordonné quelque chose et la réponse vient. Donc un jeu de paroles avec tout ce qui dans notre esprit, dans notre psychisme, complique l'affaire. C'est-à-dire des cristallisations justement un petit peu infantiles qui font que, sans le vouloir, je vais confondre peut-être constamment responsabilité et pouvoir. Je prends quelques exemples de discours qui sont de cet ordre-là. C'est moi le responsable, ça veut dire c'est pas vous. C'est moi le responsable, c'est moi qui décide. Sous-entendu, vous, vous obéissez. Bon, ça peut être ça, c'est infantile. Deuxième façon de faire, c'est pas moi le responsable, donc stop, je m'arrête là, je ne dis rien, je n'ai pas à dire et je ne me mêlerai pas de cette histoire et je ne veux rien en savoir. Sous-entendu, après moi le déluge. Donc c'est l'irresponsabilité avec tout ce qu'elle a de terriblement dangereux. Je prolonge encore plus loin en regardant un peu dans l'histoire. Regardant l'histoire, c'est le schéma de cette irresponsabilité liée au pouvoir qui permet un totalitarisme. Si un système comme le nazisme, par exemple, a pu fonctionner, c'est parce que des gens se sont déclarés irresponsables. Ils sont aux ordres et ils ont fait ce qu'on leur a demandé de faire sans prétendre en juger. En fait, il n'y avait pas de responsabilité. On était bien dans un système de pouvoir et donc d'irresponsabilité. Entrer dans la responsabilité, c'est au contraire se mettre à donner des réponses dans les deux sens et tout le temps. C'est-à-dire ne pas se juger irresponsable, mais se mêler de ce qui m'est demandé. C'est ne pas obéir en aveugle, mais au contraire questionner la demande qui m'est faite dans l'entreprise, dans l'association, dans la relation familiale, dans la relation d'amitié, dans la relation sexuelle. On voit que c'est très large et c'est très complexe. Ça met en jeu l'homme à un niveau très global, finalement, de sa réactivité au monde, de son questionnement. Alors, on va aller un peu plus du côté des fils. Je pense que ça peut nous aider à comprendre ce qui se passe. Je voudrais prendre un exemple biblique qui nous soit bien connu et qui nous aide à voir les enjeux de la filialité, de la responsabilité. Ce texte biblique très connu et tout à fait bien adapté en période de carême, c'est celui du fils prodigue, l'enfant prodigue, des deux fils. Pourquoi celui-là? Parce qu'on voit une histoire, Jésus nous raconte une histoire où il n'y a justement pas de fils. Il n'y a pas de fils parce qu'aucun des deux, ces deux enfants, aucun des deux n'est capable de recevoir l'héritage. Je m'explique, le premier, le prodigue, dès le début, il demande l'héritage, alors qu'il n'est pas majeur du tout. Le père donne tout, sa part, il s'en va, il dilapide tout, et il revient ayant tout perdu. Voilà. Il n'a pas du tout été capable de recevoir l'héritage. Le second, quand le père le retrouve après, furieux, jaloux contre le premier, il lui dit à ce père: jamais tu ne m'as donné un chevreau pour faire la fête avec mes amis. Jamais tu ne m'as donné. Le père lui répond: mais tout ce qui est à moi est à toi. Et là, on voit que ce fils, c'était pas du tout digéré. Tout ce qui est à moi est à toi. Non, on ne m'a pas donné. Tu ne m'as pas donné, tu as tout donné à l'autre et à moi rien. Il n'a pas su recevoir, il n'a rien reçu. L'héritage n'a pas été transmis. Au passage, cette phrase « tout ce qui est à moi est à toi » elle résonne très fort parce qu'on la retrouve dans la prière de Jésus à son Père. « Père, tout ce qui est à toi est à moi, tout ce qui est à moi est à toi » dans les deux sens. Et on se dit « Jésus est drôlement culotté quand même ». S'approprier ainsi tous les biens de Dieu, tout ce qui est à toi est à moi. Ça nous dit que lui, Jésus, a parfaitement reçu l'intégralité de l'héritage. Il sait que tout est à lui. Et ce tout, c'est l'Esprit Saint, c'est la liberté la plus entière, la plus totale. C'est la confiance que lui fait le Père en totalité. Donc Jésus, c'est vraiment le Fils. Là, on le voit de façon très claire. Et au contraire, les deux fils de la parabole, non. Aucun des deux n'a su accueillir le don. Cette notion de don, elle est très importante parce que tout l'acte de transmettre, c'est donner quelque chose à quelqu'un qui le reçoit. J'ai mes mains qui gênent, mais c'est exprès, hein, c'est parce que c'est avec les mains qu'on donne. Et il faut signifier ça. Si je donne, mais qu'il n'y a personne pour recevoir, ce n'est pas donner, c'est jeter, c'est balancer, c'est abandonner, c'est bazarder. Pour que le don soit transmis, il faut que les deux mains soient en lien, quoi, se rejoignent au bon moment, que le suivant reçoive au moment où l'autre a lâché. Et c'est un mouvement très subtil, ce moment où un père lâche ce qu'il donne à son fils au moment où le fils est capable de le recevoir, de le prendre. Bon, c'est des images un peu abstraites, bien sûr. Qu'est-ce qui est donné, qu'est-ce qui n'est pas donné? Mais ce vocabulaire de donner, recevoir, donner, c'est en permanence présent dans notre vie. Je n'ai pas reçu, on ne m'a pas donné, on ne m'a pas fait confiance. Toute l'âpreté, l'amertume parfois de la vie qui consiste à penser qu'on ne m'a rien transmis. Je ne suis pas un fils ou une fille parce qu'on ne m'a pas donné, on ne m'a pas transmis. Mais peut-être aussi que je n'ai pas su accueillir, recevoir, ou bien que j'ai pris comme le premier fils, le cadet, est dilapidé, mais sans transmission, sans réception valable. Ce sont des schémas qui peuvent parfois éclairer notre vie. L'audace de la responsabilité, ça va donc être de l'ordre de l'accueil de ce qui est donné. Est-ce que dans ma vie de chrétien, qu'elle soit vie relationnelle, familiale, vie professionnelle, vie associative, j'accueille tout ce qui m'est proposé? C'est ça l'audace de la responsabilité, peut-être. Ou bien est-ce que je n'ai de cesse d'avoir ce que j'ai prévu de saisir, de m'approprier? C'est un autre type de vie, une vie de projet et de captation. Mais non, la responsabilité, c'est je réponds. Donc l'initiative ne vient pas de moi. Je crois que c'est profondément chrétien parce que Jésus n'a eu de cesse de nous parler d'un Père qui avait eu l'initiative et auquel il ne faisait que répondre. Toute sa vie est réponse. Alors peut-être qu'il y a un bonheur qui est logé dans le fait de répondre, d'accueillir ce qui est proposé, de tendre la main, de savoir demander aussi, au fond. Dans la vie des moines, le chapitre de la responsabilité, et c'est très intéressant de voir qu'il n'est pas d'abord explicité au niveau de l'abbé, le père abbé de la communauté, mais au niveau du numéro 2, de celui qui est en situation entre le marteau et l'enclume, qu'on appelle le célérier, c'est l'économe, c'est celui qui est chargé des choses pratiques, un peu de toutes les choses pratiques. Bon, c'est vaste. Alors pourquoi il est en situation entre marteau et enclume? Parce qu'il doit rendre compte de tout à son abbé et il doit tout donner de ce qui lui est demandé par les frères. À chaque frère qui vient demander quelque chose, il doit donner. C'est lui qui donne au fond, mais il ne donne pas son nom propre. Il donne au nom de la communauté finalement, de l'abbé, c'est-à-dire de la communauté, de plus grand que lui. Donc il transmet. Ce jeu de la transmission, c'est subtil, c'est infini aussi, c'est infini. Et Saint Benoît lui dit, pour pas qu'il soit découragé, il lui dit, quand on demande des choses déraisonnables, et ça arrivera souvent, il faut donner quand même quelque chose, il faut donner une parole. Et il rappelle la citation du Siracide, la parole est le plus beau des cadeaux, c'est le meilleur des dons. Alors là, il y a une tradition biblique, la parole, c'est vraiment quelque chose de fort. Mais dans la vie courante, donner une parole quand on a envie de donner une claque, c'est une conversion finalement. C'est quelque chose qui prend du temps, qui demande de la maturité. Oser proposer une bonne parole, même quand la question est mauvaise. Donner une bonne réponse à de mauvaises questions. C'est peut-être ce qu'a fait Jésus aussi avec ses disciples, qui n'étaient pas spécialement éclairés, de donner des bonnes réponses à de mauvaises questions, ou bien aux pharisiens, ou bien aux sadducéens. En tout cas, on le voit tout le temps donner des bonnes réponses à de mauvaises questions. Alors, est-ce que de ça nous sommes capables? Est-ce que nous sommes fils et filles suffisamment pour oser donner la bonne parole? La parole ouverte, quand la question elle-même nous semble creuse ou déraisonnable, pas intéressante. Alors, je fais encore une petite échappée. J'ai pas voulu écrire mon propos, j'ai pris quelques documents sous les yeux et puis je navigue à vue. Et vos échanges tout à l'heure peut-être remettront dans la voie de ce qui est vraiment important. Mais un des mots que j'ai voulu retenir pour le creuser un peu avec vous ce matin, parce qu'il est très lié à cette responsabilité, c'est le mot d'obéissance. Je suis un peu fâché avec l'obéissance dans l'Église parce que quand on prend tous les évangiles et toutes les paroles de Jésus dans les quatre évangiles, on ne va jamais entendre parler d'obéissance. Le mot n'y est pas. Voilà, il n'y est pas. C'est aussi simple que ça, il n'y est pas du tout. En fait, les deux seules fois où il y est, qui est-ce qui obéit dans l'Évangile? C'est le vent lors de la tempête apaisée. Le vent lui obéit. Le vent et la mer lui obéissent, dit Pierre ou un des disciples dans la barque. Qui est-il donc cet homme-là pour que le vent et la mer lui obéissent? Bon, le vent, la mer, et puis un sycomore. Si vous aviez tant soit peu de foi, vous diriez à cet arbre d'aller se planter dans la mer et il vous obéirait. Voilà les deux seules fois où on a obéir dans l'Évangile et dans la bouche de Jésus. Jamais, c'est-à-dire jamais pour un homme. Par contre, on a 150 fois écoute, écoutez. Alors, pourquoi les deux mots mis en parallèle? Parce que en grec, écouter, c'est akouo, akouain, acuité. L'écoute, le mot en vient, akouain. Obéir, c'est up akouo, c'est-à-dire écouter, upo, dessous. Obéir, écouter dessous. L'hébreu, il n'a même pas de mot pour obéir. Il dit écoutez, écoutez en face. Alors, ce que nous demande Jésus, c'est justement d'être des écouteurs. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est tout le temps à l'écoute, non seulement des autres, mais du monde, de lui-même. C'est très important, c'est une notion complètement centrale dans l'Évangile, l'écoute, mais pas l'obéissance au sens de soumission. Donc, obéissance, quand on en parle, ça vient avec les traductions latines, dans les textes postérieurs, pas dans l'Évangile. Obéir, c'est ob audire, c'est-à-dire écouter, ob en face. Mais 99% d'écoute et 1% de soumission. Or, là, il y a eu historiquement, clairement, une bascule qui fait que on est passé de ce 99% d'écoute, 1% de soumission à 70% de soumission, 30% d'écoute, et puis surtout ne répondez pas, faites. Alors ça, c'est dur, mais ça, c'est le salaire d'une institution qui, au IVe siècle, avec Constantin, est devenue un pouvoir, une responsabilité qui s'est muée en institution lourde et qui s'est comparée ou qui s'est rendue analogue avec les pouvoirs de ce monde, c'est-à-dire les pouvoirs politiques, les gouvernements, les rois, tout ce que vous voulez, toute l'histoire de l'Église. Mais là, il y a une perversion de l'obéissance. Et on voit le danger de cette perversion de l'obéissance quand on, simplement pour eux, ma génération, par exemple, quand on regarde ce qui s'est passé lors de la dernière guerre avec le pouvoir nazi et le procès Eichmann, Hannah Arendt. Hannah Arendt est certainement le premier philosophe à avoir déconstruit ce phénomène de l'obéissance aveugle qui a entraîné les pires catastrophes à un niveau international, enfin politique et humain. Donc en Église en ce moment, je n'ai pas besoin de vous faire des dessins, on est en train de payer ça aussi. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de parole. Il n'y a pas eu de parole sur des actes commis par des personnes de l'Église, des responsables, entre guillemets, abus de pouvoir, abus sexuels. Et on est en train de payer très cher cette déconsidération qui fait que, oui, ils ont été couverts. Il y a eu obéissance, apparemment. Ça n'a pas fait de bruit, on n'a pas fait de vague. Il y avait des victimes, et les victimes n'ont pas été écoutées. On ne les a pas entendues. Aujourd'hui, tout ça, ça fait très mal, ça rejaillit de tous les côtés. Et puis, il y a des gens qui ont été blessés pour toujours. Mais il est grand temps de reprendre une dynamique de l'écoute qui laisse l'obéissance dans un schéma différent, obéissance volontaire, une obéissance d'adhésion, une écoute comme celle que Jésus me demande d'avoir vis-à-vis de sa parole, de lui-même. Responsabilité, obéissance, écoute. Responsabilité, c'est aussi répondre, donc, mise en jeu de la parole. Comment est-ce que je me risque dans ce monde de la parole, même sans être moi le responsable, mais à cause des choses qui me sont demandées par l'un, par l'autre, est-ce que je m'y risque ou est-ce que j'obéis, mais avec le petit moulin derrière qui fonctionne en isolé. Ça fait déjà, bon, ça me donne l'impression de vous avoir emmené déjà très loin dans l'interrogation qui est posée, à savoir l'audace de la responsabilité. Que de secteurs où on aurait des pendules à remettre à l'heure, quoi. à un niveau personnel, à un niveau de fonctionnement de nos associations, nos organismes, de nos relations. Donc, ce sera une des questions peut-être tout à l'heure à vous proposer, qui est faire le point chacun un peu en soi, pas forcément pour le partage, mais au moins pour soi, de dire mais quels sont mes points faibles, moi, quand je pense responsabilité, où est-ce que j'ai coupé la chaîne? À quel endroit je n'ai pas accepté ce jeu de va-et-vient, de transmission, de donner, de recevoir. Parce que cette responsabilité, chaque fois qu'il y a relation, elle se traduit par des paroles, par des échanges, par du don et de la réception. Alors, où est-ce que j'en suis, moi, dans mes relations familiales? Alors, le moine, par exemple, il sait bien que ça. Il a quitté, mais pour autant, il n'a pas laissé toute sa famille, tous ses parents sans lien. Il l'a peut-être fait autrement. C'est en vieillissant qu'on en prend plus conscience, parce que si à 30 ans, on fait sa vie, comme on dit. Et puis à 60, on a davantage envie de regarder, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ce jeu de relations? Qu'est-ce que j'ai coupé? Qu'est-ce que j'ai entretenu? Qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que j'ai donné? C'est très vrai dans la vie quotidienne, au niveau du travail, souvent. Le travail, c'est un lieu excellent et un lieu de vérité de l'être, parce que on ne travaille pas seul. Aujourd'hui, inviter des chrétiens à la responsabilité, c'est toujours lutter contre l'isolement, c'est-à-dire la tentation de l'isolement, de dire au fond, bon, ce que je fais, ça ne regarde que moi, même si c'est pas bien, c'est que moi. Et voilà. Chaque fois qu'on va mettre la responsabilité au placard, on va s'isoler davantage, on va se couper de ces chaînes qui nous font vivre, ces chaînes de relations qui sont vitales, vitales pour tout être vivant. Et donc, l'audace de la responsabilité, c'est l'audace de maintenir des liens vivants. Et ça vaut dans tous les domaines de la vie. Je vais peut-être reprendre un ou deux textes qui pourraient fixer les idées ou clarifier. Oui, d'abord le texte de John Robinson, donc l'exégète anglais, dont j'ai parlé sur le Fils. Qu'est-ce que c'est que le Fils dans la Bible? Il écrit ceci, donc ça reprend un peu l'horizon. L'homme devenu majeur est encore appelé à être fils. Alors il faut faire une transposition, évidemment. Fils et fille, là il y a un contexte culturel qui fait qu'on est dans le masculin et que nous aujourd'hui on doit élargir et on doit bien comprendre que ça c'est une clé biblique qui est forcément un peu amputée, même si Jésus a fait tout un travail pour élargir. Je reprends. L'homme devenu majeur est appelé à être fils. La filialité dans le Nouveau Testament est une image de la liberté. Elle est employée précisément pour l'homme qui passe de la minorité à la majorité. La foi chrétienne, loin de chercher à maintenir l'homme dans ses chaînes, l'appel à la maturité, non pas celle de l'adolescent révolté contre un père, mais celle de l'adulte qui entre dans la liberté responsable du fils et de l'héritier. Texte qui m'a mis en route pour moi depuis longtemps sur cette question de la filialité. Alors, j'aime bien regarder de plus près le schéma père-fils. en disant, le Père, ben, il transmet, il donne au Fils, un Père abbé un peu, mais un Père dans la famille aussi. Et puis, qu'est-ce qu'il donne en définitive de plus qu'est-ce qui est le plus important de ce que donne le Père? C'est la liberté. La liberté au sens d'une liberté d'adulte. Une liberté qui n'est pas la révolte, mais qui est liberté de paix qui met dans la joie et dans le bonheur. Et la liberté, on ne peut pas la donner. Concrètement, le Père, il ne la fabrique pas, la liberté de son fils. Au contraire, il va passer son temps à lui dire « fais ceci, fais pas ça », etc., à brimer sa liberté. Mais il ne se contentera pas de ça. Il y aura d'autres modes de fonctionnement, comme ça, le mode « fais ci, fais pas ça », c'est ce qu'on appelle la loi. Le Père transmet la loi. Et à travers ça, il donne une liberté, effectivement, mais c'est insuffisant. On connaît bien un autre schéma du père avec son fils, qui est de dire « fais comme moi, imite-moi, réussis comme moi », ou bien, voilà, enfin, référence à. Et l'imitation, elle aussi, c'est un chemin sans issue. On n'y arrive pas, c'est pas vivant. Ce n'est pas vivable pour le fils d'être simplement la copie, le mimétique. Et puis, il y a le père qui abandonne la partie et qui dit « fais bien ce que tu veux, je m'en fous. Vas-y, fais tes conneries et puis on verra bien. » Ça, c'est l'abandon, ce n'est pas le don. Il n'a rien transmis. Il a lâché, mais il n'y avait rien à la clé. Il n'y a pas eu de don. Alors, je vous lis un petit apologue hassidique. Donc le judaïsme polonais, prusse, du XVIIIe et du XIXe siècle, une petite histoire rabbinique qui est très belle pour parler de la liberté du père et du fils. C'est Martin Buber qui écrit ça. Lorsque Rabbi Noah, fils de Rabbi Mordechai, prit la succession de son père, les disciples s'aperçurent qu'en bien des choses, il se comportait tout autrement que le tzaddik, son père. Le tzaddik, c'est le titre honorifique. Ils lui demandèrent pourquoi. Et Rabbi Noah répondit, « Moi, mais je fais en tout exactement comme avait fait mon père. Et de même que mon père n'avait imité personne, de même, je fais en sorte de ne pas l'imiter. » Alors, on voit que c'est un sophisme. C'est une histoire qui se mord la queue. Mais Elle dit le statut tout à fait particulier de la liberté. La liberté, c'est imiter celui qui est inimitable. C'est entrer dans la singularité et pourtant rester dans la tradition. Parce que la tradition, c'est la tradition de la liberté. Je veux te transmettre une liberté. L'Église aussi, elle a ça comme mission, transmettre à chacun sa liberté, sa responsabilité, mais transmettre, pas simplement lâcher. Alors, le permis défendu suffit pas, la loi suffit pas pour ça. Il s'agit de construire des relations et de les construire avec des réponses et des paroles. Bon, je vois l'heure qui tourne, 35. Il reste encore peut-être 5-10 minutes. J'aimerais dire un mot par rapport toujours à la responsabilité, l'audace de la responsabilité, du rapport au temps. Rapport au temps. On n'est pas responsable de façon intemporelle. On est responsable en s'inscrivant dans une temporalité courte, exigeante, précise. On est responsable parce qu'on est dans le présent et qu'on n'est pas perdu ailleurs. Au fond, on est responsable jour après jour, minute après minute, heure après heure, dans la mesure même où on donne une réponse, où on intervient librement, où on sollicite, pose une question, Alors, c'est ça la responsabilité. Dans la mesure où on écoute le réel, l'aujourd'hui, les gens qui sont là avec moi, et non pas d'autres seulement. C'est plus facile de s'installer à distance que d'être présent. Cet exercice de la présence, j'y crois beaucoup. Je pense que un moine, c'est pas grand-chose d'autre qu'un homme qui a un petit peu laissé tomber des horizons lointains pour être là, là où il est, au moment où il est. Alors la prière aide à la présence, et puis le travail, et puis les liens de fraternité, d'une communauté qui font que ben, on est là, on n'est pas ailleurs, c'est ces frères-là et c'en est pas d'autres. Donc c'est à cela que je dois être présent. Et ça reste peut-être une idole de notre temps présent, de notre époque contemporaine, qu'une certaine fuite de ce présent. C'est-à-dire, c'est trop facile de s'échapper, ou bien peut-être on ne peut pas faire autrement, mais en tout cas, on a peur de ce présent vide que représente la vie toute simple, la vie aujourd'hui et pas demain, la vie sans grand projet, mais en même temps une vie pleine de sens et de sel et de saveur, parce que bah, la vie c'est d'abord ça, c'est vivre, manger, dormir, aimer. Rapport au temps, rapport au présent. Pareil, je vous lis, ça aidera à fixer l'idée qui m'a guidé. Un texte du père Joseph Moin, théologien jésuite, qui est mort il n'y a pas longtemps. Le présent est le seul moment du temps dont un individu humain ait vraiment la maîtrise. Il peut conserver le passé dans sa mémoire. Il peut prévoir et préparer son avenir. Mais il n'a barre sur l'un et sur l'autre, le passé et l'avenir, que par l'attention qu'il leur porte dans le présent. Et encore, ne peut-il que prêter alternativement attention à l'un ou à l'autre. Il ne vit jamais pour soi-même que le moment présent. Et c'est dans ce moment éphémère qui ne fait que passer qu'il prend en charge son existence, qu'il prend conscience de soi, qu'il construit son identité, qu'il se conduit en sujet responsable de soi. Espèce de retour au présent comme essence, comme manifestation de la responsabilité. C'est au moment où la responsabilité, souvent, c'est vide. Enfin, c'est pas le pouvoir, c'est pas les points, les espaces de pouvoir que je construis, c'est répondre aujourd'hui et maintenant à ce que je dois faire et dire et ce à quoi je peux réfléchir. Alors, je termine avec ça. Je vous rends après la liberté du petit quart d'heure de méditation avant de passer aux questions. C'est une phrase de Dietrich Bonhoeffer dans Résistance et Soumission qui exprime cette espèce d'impératif à la fois de la responsabilité et de la présence. Il nous reste le chemin très étroit et parfois presque introuvable de prendre chaque journée comme si c'était la dernière et pourtant de vivre dans la foi et dans la responsabilité comme s'il y avait encore un grand avenir. Je trouve ça très beau comme tension chrétienne, profondément chrétienne. Aujourd'hui, comme bah, c'est peut-être le dernier temps que j'ai à vivre, et donc allons à l'essentiel, et puis en même temps, comme s'il y avait un grand avenir, je dois transmettre. Je ne peux pas m'en tenir à moi. Tout ce que j'ai reçu, je dois le donner. Rien n'était seulement pour moi. Le fils devient père, il transmet, il donne. C'est ce qu'a fait Jésus, transmettre. Voilà, merci de votre écoute. Et puis, je donne la parole à Timothée ou à qui doit la prendre pour rebondir après sur les questions dans un petit moment, c'est ça? Plutôt personnel que pour le groupe de partage, mais ça peut justement préparer ça. C'est se demander à soi-même où est mon point faible en fait de responsabilité, c'est-à-dire dans la chaîne des relations que j'entretiens, où est-ce que j'ai coupé moi-même la relation, où j'ai pas su répondre, j'ai pas voulu répondre. Est-ce que c'est en famille, est-ce que c'est dans l'entreprise, est-ce que c'est dans la société? Quel est mon point faible? Est-ce que c'est de garder pour moi ma responsabilité, mon pouvoir, sans vouloir transmettre, et au contraire de la laisser bien, bien aux responsables, on me déclare surtout qu'on me laisse tranquille. C'est important de se connaître soi-même. On a des réflexes qui sont pas les mêmes les uns et les autres face à ce mot de responsabilité. Après, dans le mode d'action que promeut la responsabilité, qu'est-ce que je mets en valeur et qu'est-ce que je néglige? Alors, j'ai retenu un certain nombre de mots comme ça. Donner, parole, écoute, obéissance, vérité. Toutes ces choses-là, c'est comme des perles autour de l'unique responsabilité qui permettent d'être responsable, mais qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Où est-ce que je me sens vraiment responsable? Dans mon choix d'écouter certaines choses, dans mon choix de dire d'autres choses, le fait de donner ou de recevoir plus facilement, dans le fait d'obéir et d'obéir avec quelle modalité, et puis dans le rapport à la vérité, sûrement, s'il y a parole, il y a question de la vérité. Alors, cette affaire des modes d'action de la responsabilité, je le mets en relation aussi avec la foi chrétienne, c'est-à-dire où j'en suis de mon rapport à l'insignifiance généralisée, ce climat de l'époque que j'ai essayé de caractériser au départ, comme ben, nous ne sommes rien du tout dans un univers tellement gigantesque. C'est totalement insignifiant, donc j'ai le droit d'être totalement irresponsable. Alors notre foi peut nous reconstruire notre responsabilité, mais où j'en suis de ce rapport-là, foi insignifiante. Troisième point, troisième question possible, éventuellement propice au partage, reprenant la parabole des deux fils, recevoir l'héritage, on ne m'a pas donné, c'est ce que dit l'aîné, tu ne m'as jamais donné un chevreau. Rappelez-vous que le cadet, au début, quand il revient à la maison, juste avant de revenir chez son père, il regarde une auge, l'auge des cochons, où il y avait des gousses, et le texte nous dit, et personne, car personne ne lui en donnait. Il ne suffit pas d'avoir quelque chose, il faut encore que ce soit donné pour que ce soit vivant. Si ce n'est pas donné, ça a un goût amer, ce n'est pas bon. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire pour nous aujourd'hui, recevoir l'héritage, notamment en termes de chrétien, de foi, d'église? Puisque j'ai dit que l'héritage, c'était au plus haut point l'Esprit Saint que Jésus reçoit de son Père. En plénitude, tout ce qui est à moi est à toi. Pour nous, alors, c'est quoi l'héritage? Qu'est-ce qui est l'héritage pour moi? Et est-ce que je le saisis? Est-ce que je le reçois? Puis on pourrait avoir un dernier point qui soit celui de la mise en relation de ce monde de la responsabilité avec les peurs. Mes peurs personnelles. Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui m'empêche d'être responsable de ma vie ou de mon destin? Qu'est-ce qui me fait peur? La question de la sexualité peut être posée là. En quoi cette sexualité qui pour tout homme est le lieu d'une perte de maîtrise, d'une démaîtrise, qu'est-ce que ça veut dire responsable dans ce domaine, qui est celui qui nous chahute au niveau même de la maîtrise? C'est peut-être du coup, voilà, ça peut poser la question de la parole sur ses peurs et sur cette démaîtrise particulière qu'est la vie sexuelle, la relation à la sexualité. Voilà les questions. Après, vous élargirez vous-même le champ de la discussion. Alors, je vous dis à 14h, c'est ça?
Oui, tout à fait, à 14h. Par contre, il y a une demande de certains qui demandent est-ce que tu peux répéter la deuxième question qui n'est pas claire pour tout le monde.
D'accord. La deuxième question pour moi, c'est qu'est-ce que je promeux comme action pour devenir responsable dans ma propre vie? C'est-à-dire, quel est le lieu où je me sens le plus à l'aise pour exercer ma responsabilité? Est-ce que ça fait partie des différents schémas que j'ai regardés? Par exemple, l'écoute. Voilà, il y a des gens très responsables qui parleront peu, mais qui écoutent beaucoup. Et leur écoute est leur façon de construire leur responsabilité. Il y en a d'autres pour lesquels il n'y a pas de responsabilité sans parole. Et c'est donc de dire, de prendre la parole, de témoigner, qui va construire leur monde de responsabilité. Pour une tierce personne, ça peut être l'obéissance, avec un côté plus ou moins soumis. Mais c'est comme ça que je construis aussi une responsabilité. Je suis pas... Moi aussi, j'obéis, on obéit toujours. Si on obéit qu'à ses caprices, c'est encore une obéissance, mais ça peut être le discernement de ce qu'est une responsabilité. Ou bien la vérité, rapport à l'exigence de vérité dans la vie, dans parole et action, etc. Voilà, c'est au fond, j'essaye de mieux le dire, comment moi, je perçois spontanément que je puis devenir un peu plus responsable. Spontanément, quelle est la façon d'agir qui va me venir? Écoute, parole, obéissance, mieux obéir, mieux écouter, mieux parler. Voilà, être en vérité, faire l'unité, donner, recevoir. Voilà pour la question. Est-ce qu'il y a une autre question à répondre avant d'y aller?
Oui, en fait, la même personne qui n'avait pas compris la question, oui, dit qu'en fait, ce n'était pas celle-là, c'était plutôt la troisième qui
n'avait pas compris. Alors, c'est moi, parce que j'avais mis 1, 2, 3, 4, 5, puis je ne les ai pas donnés dans l'ordre. Alors,
sur la parabole des deux fils, j'imagine.
D'accord, la parabole des deux fils. Alors, c'est l'héritage. Parabole des deux fils, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour moi recevoir l'héritage? Ou le demander, se projeter dans la parabole des deux fils pour se dire, bon, il y a un profil du cadet et il y a un profil de l'aîné. On voit bien ça. Hein. D'ailleurs, quand Jésus raconte la parabole, il pense aussi au judaïsme et aux païens. C'est aussi, ou aux pharisiens publicains, enfin, j'en sais rien. Il y a tous ces schémas-là. Mais alors, personnellement, moi, je suis plutôt l'enfant rebelle qui a voulu tout recevoir d'emblée et qui a foutu le camp de la maison. Bien, non, moi, je suis plutôt resté à la maison, mais sans me rendre compte que tout était à moi. Voilà. Pour aller plus loin, effectivement, je trouve que ça vaut la peine de se dire, mais qu'est-ce qu'on reçoit, au fond, dans cette histoire? Qu'est-ce que j'attends de l'Église, si c'est l'Église qui me donne, par exemple? Qu'est-ce que j'attends d'elle? Cet héritage de l'Esprit Saint, comment elle va me le donner? À quoi il va ressembler? Qu'est-ce que j'ai à faire pour prendre conscience que ça m'a été transmis? Qu'est-ce que je peux dire après? Sinon, il faudra poser des questions vous-même.
Non, mais c'est bien.
Merci.
C'est bien. Donc, 14h pour
D'accord.
Pour la suite. Merci.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.